des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Le commentaire de
Steve Fortin, des positions pas comme les autres.
Alors, salut Steve, tu veux nous parler du milieu de l'éducation?
Oui, mais avant, je vais commencer par une bonne nouvelle parce que tous les matins, je suis content qu'on ait bougé le Tour de France. On le présente plutôt qu'en juillet maintenant. Aujourd'hui, c'est l'ascension du mythique col de la Madeleine.
Okay.
C'est quelque chose que je me promets, c'est sur mon bucket list. Et je veux le dire, le Québécois Hugo Houle de Sainte-Perpétue, toujours accroché au groupe Maillot Jaune, c'est hallucinant de le voir aller. Je le dis, j'ai des frissons pour ceux qui connaissent un peu le vélo, qui soit là, qui s'accroche dans un... Puis on monte le col de la Madeleine par une route qui était inédite, toute petite, cabossée. Écoute, je suis voilà, tout fier de voir
et
que...
Toi, tu veux le faire, toi, à un moment donné.
J'aimerais ça, oui, je vais aller. C'est sûr et certain que je vais aller un jour essayer de... Ben, je vais aller gravir ça, je veux faire ça, puis c'est beau de voir ça, c'est beau de voir que on a un Québécois qui est là-bas, puis qui fait rayonner ça. Et aujourd'hui, donc, pour ceux qui regardent ça sur France TV, moi, je le regarde sur France TV, c'était beau aussi de voir que tout en bas, à un moment donné, tu sais, on passe, il y a des gens, hein, sur le bord des routes du Tour de France, il y a des gens, tout le monde porte des masques, et à un moment donné, je vois le drapeau du Québec, puis je me suis dit, ben voilà, il y a un Québécois là-bas qui était là, puis qui dit, let's go, Hugo, vas-y. Donc, félicitations, Hugo.
Ça, c'est cool. Écoute, l'angle de la pente, c'est de combien? C'est très escarpé.
Ben, là, écoute, tantôt, là, quand ça commençait, 11-12%, ensuite 10%, mais ça ne relâche pas. Et j'écoutais Thomas Vauclair, un ancien coureur très connu, qui est super bon à l'animation à France TV. Lui, il disait, écoute, c'est par cette route-là, c'est très étroit, et puis c'est pas de relâchement, il n'y a pas de 6%, là, c'est du 10, du 11. Je les regarde aller, puis je trouve ça absolument phénoménal.
Écoute, on s'ennuie des textes de Pierre Folia sur le Tour de France, hein, qui suivait ça. D'ailleurs, il y avait sorti ses meilleures chroniques sur le cyclisme en livre. Le milieu de l'éducation prochaine, oui. Grande dérape de la pandémie.
Oui, parce que là, il va falloir porter attention à ça. Vu de l'Outaouais en ce moment, là, je dois le dire, les gens du journal Le Droit, c'est essentiel, l'information en région. Puis je lève mon chapeau aux journalistes du Droit qui suivent ça. C'est pas facile nulle part en province, mais en Outaouais, on avait été quand même assez épargnés lors de la première vague. Et là, on se trouve dans une situation où on est en jaune. Et je regarde dans les écoles, je reçois des messages de gens qui savent que on se parle des fois ou que je peux écrire et on me demande, mais regarde, ça n'a pas de bon sens, ma petite fille, mon petit garçon, on a eu tellement de gens qui sont là, puis je te dis un mot hier sur une surveillante de dîner, je veux dire, on l'a envoyée dans une classe, on n'avait plus personne, la dame plus de 60 ans, totalement tétanisée de se trouver là, était pas prête à ça. Je veux dire, on essaie, on fait ce qu'on peut, mais là, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que j'espère qu'on a un plan de contingence, j'espère qu'on va trouver une façon, parce que on apprenait dans le Droit ce matin là que c'est une centaine de profs là qu'on bouge, en Outaouais là qui ont été déplacés ou qui ont été renvoyés à la maison parce qu'il y avait des cas de COVID, puis on disait ben là tu vas falloir que tu sois en isolement. C'est tout un casse-tête et je vais te dire encore une fois. Je reviens à ce grand changement, la loi 40, quand on a décidé de mettre la hache dans les commissions scolaires, puis on a fait les centres de services. Ils ne pouvaient pas le savoir. Ils ne pouvaient pas savoir quand ils ont déposé ce projet de loi.
Que la pandémie s'en venait.
Ah ben écoute, c'est on me le dit, il y a des gens, je parle avec des gens qui étaient des anciens gestionnaires de commissions scolaires, présidents de commissions scolaires, puis ils me disent, écoute, ça pouvait pas être arrivé un pire moment. Puis ben il y a des gens qui avaient été à qui on avait montré cavalièrement la porte, mais qui en ce moment ont repris du collier puis vont aider parce qu'ils le font pour les élèves, ils le font pour les profs aussi. Puis il faut lever notre chapeau, mais il va falloir surveiller ça parce que vraiment là, à chaque fois qu'il y a un cas qui est déclaré, ben ça déclenche. Il y a toute une cascade d'événements qui arrivent. C'est tellement complexe en tout cas. Il va falloir surveiller ça.
Mais quand j'entends des gens là comme toi là qui défendent les commissions scolaires puis qui en sont quasiment nostalgiques, je me dis attends une minute, là, on a oublié là, à quel point là on les détestait, mais c'était n'importe quoi là. Ils prenaient leur argent puis allaient dans des colloques, wow. Puis tu sais, on le sait là, il y avait des grandes dérapes là.
Richard, c'est l'exception. Ça, c'était pas comme ça tout le temps. Puis, je veux bien croire, c'est vrai que ça arrivait. Mais en fait, qu'on vienne pas me dire que ça arrive pas à peu près dans tous les domaines. Je veux dire, il n'y a pas un domaine où il n'y aura pas, à un moment donné, quelqu'un qui va commettre de l'excès, où il n'y aura pas des fois des décisions, peut-être, là, inconsidérées qui ont été prises. Mais en gros, une fois que je me suis intéressé à ça pour avoir discuté avec des gens qui étaient pour ou contre les commissions scolaires, mais même des gens qui étaient contre, qui se disaient, oui, mais faut faire attention, on va remplacer ça par quoi, la démocratie scolaire? Juste du côté anglophone, ça fonctionne pas. Donc, no taxation without representation. Mm. On est taxé, puis en anglais, ils vont avoir les commissions scolaires anglophones vont garder leur droit d'élection scolaire. N'oublions pas une chose, faut toujours le dire. Chaque fois qu'on parle d'élection scolaire, puis on dit oui, mais les taux de participation, ils étaient pas forts, puis moins de 5%. Dans les commissions scolaires anglophones, si tu veux voter, il faut que tu fasses l'effort à titre de citoyen de t'inscrire sur la liste. Donc, quelqu'un qui s'inscrit sur la liste, on s'entends-tu qu'il y a des grosses chances qu'il va aller voter? C'est sûr et certain que les taux de participation étaient plus grands, tandis que du côté francophone, tu étais sur la liste de facto, donc bien entendu, si tu sais même pas que tu es dessus ou que ça t'intéresse pas, tu comptes quand même dans les statistiques. Cette différence-là est absolument fondamentale et on doit bien comprendre ça là, quand on nous dit, quand on nous balance l'argument, oui, mais les gens ne votaient pas puis il y avait un taux de participation très faible, mais c'est pas le même système en français puis en anglais. Là. Fait que là, ça, faut régler ça tout de suite.
Steve, notre collègue du journal de Montréal, le Régent Parent, qui est un ancien leader syndical d'enseignants, écrit justement sur la rentrée, puis dit « ça sent l'improvisation à plein nez ». T'en penses quoi?
Ben, écoute, l'improvisation, j'imagine là, que... En tout cas, il y a une chose qu'on va régler tout de suite, parce que je l'ai entendu. Est-ce que ça se pourrait qu'on n'ait pas tout de suite, là, dès la fin de la... Dès qu'on a, en fait, levé les cours au mois de mars dernier, mais... J'espère qu'on avait commencé tout de suite à prévoir en fonction de la rentrée d'automne, puis qu'on avait commencé à élaborer des plans. Il fallait le faire, c'était absolument essentiel. Je n'ai pas d'informations qui me disent, moi, qu'on ne l'a pas fait. Mais quand on regarde, quand on scrute un peu, puis on s'intéresse aux écoles, de l'improvisation, je crois qu'il y en a eu. Comme parents, nous, on recevait, tu sais, moi j'ai deux enfants, j'en ai une au secondaire, j'en ai une au primaire, on reçoit des communications, toi aussi, mais dans les communications que nous, on recevait, des fois, là, je peux recevoir 6-7 courriels par jour, puis on me disait, oui, mais voici une note, veuillez en prendre connaissance du centre de l'ancienne commission scolaire, du centre de service un tel, puis là, ben, je me rendais compte, ben, attendez un peu, là, vous nous avez dit l'inverse hier, là, on corrigeait le tir. Oui, il y a eu comme ça, à la toute fin, on recevait des fois d'informations contradictoires. Mais d'un autre côté, est-ce que le centre de service, lui, reçoit des directives de plus haut et qu'il est obligé de s'adapter? En tout cas, c'est pour ça que je dis, moi, je lève un flag, là, je lève un petit drapeau blanc en disant attention, là, parce que jusqu'à maintenant, ça se tient, mais si ça continue comme ça, en tout cas, vu de l'Outaouais, c'est qu'à un moment donné, ça tiendra plus. Puis quand ça tiendra plus, bien, on le sait, comme on l'a vu dans les CHSLD, il suffit qu'à un moment donné, ça commence à déraper pour qu'on perde le contrôle.
Mais cela dit, j'aimerais pas être dans l'essuyer de Jean-François Roberge. Hein? Ça doit être un sacré casse-tête quand même. Écoute, tu veux nous parler, puis merci d'en parler parce que c'est très important, du procès de Charlie Hebdo. On a entendu des gens, hein, on se souvient de la chronique de Dil Tremblay qui disait, oui, mais c'est de la provocation, blablabla, qui apportait des bémols. Mais là, heureusement, les défenseurs de la liberté d'expression là, sont comme galvanisés par le procès et sortent de leur trou.
Oui, et je dois quand même le dire, à chaque jour, pour ceux qui sont abonnés à Charlie Hebdo, puis c'est quelque chose que j'ai fait, moi, il y a quelques mois de ça, donc j'avais décidé de m'abonner à Charlie Hebdo. J'aimais la couverture qu'on faisait de parce que c'est Charlie Hebdo, c'est des caricatures, mais c'est aussi des chroniqueurs, c'est aussi des journalistes, c'est un angle différent de couverture de ce qui se passe en Europe et même dans le monde. Puis là, ce qu'on voit, c'est que il y avait un grand cri de ralliement quand on a reparti un peu le mouvement Où est Charlie, parce que là, le procès s'en venait, ben si on dit cette fois-ci, il ne faut pas qu'il soit seul. Et là, on voit quand même des gens de la gauche et même des gens là de tous les horizons politiques en France qui disent donc je suis toujours Charlie. Et moi, je suis content de voir ça parce que il y a des acteurs, il y a des chroniqueurs, il y a des dessinateurs qui étaient sur place et qui étaient proches de cette équipe-là, qui commencent à témoigner. On est rendu au 5e ou 6e jour du procès maintenant là, de témoignages. Puis il y a un appui. Et ça, je suis content de voir ça. Et même il y a un mouvement pour ressortir toutes sortes d'anciennes caricatures qui avaient été faites. Puis là, ben, il y a des gens sur leur compte Twitter, sur leurs réseaux sociaux qui font ça. Et j'espère qu'ici, à un moment donné, on aura une plus grande qu'on soit conscientisé un petit peu plus à qu'est-ce qui se passe là-bas, parce que j'ai un de mes contacts, il n'a pas voulu que je le nomme, mais sur les réseaux sociaux, qui m'a envoyé quelque chose, puis il a dit, écoute Steve, il dit, je viens d'apercevoir que sur la Bibliothèque Archives Nationales du Québec, la BANQ, tous les numéros du magazine Cro, qui était très, très populaire à l'époque, sont disponibles, sont numérisés.
OK.
Et là, il m'envoyait des liens, tout ça, puis je suis allé voir, mais je me disais, tabarnouche, le numéro sur les fonctionnaires de juin 82, c'est facile, on tape Cro, fonctionnaire juin 82.
OK.
Vous allez pouvoir être capable d'aller lire ça. Puis ce qu'il me disait, c'était, qu'est-ce qu'on a perdu depuis? Il m'expliquait, mais regarde, on pourrait plus faire Cro aujourd'hui. Puis il disait, les sketchs de Rock et Belles Oreilles, on pourrait plus faire ça non plus. Et là, il me dit,
mais
comme ça, toutes les espèces de revues ou des satires irrévérencieuses, puis il disait, on a perdu ça. Puis là, je me suis mis, écoute, j'ai perdu un temps fou hier soir, et là, je me disais, mais OK, j'allais dans un autre numéro, puis un autre numéro, puis je me dis, c'est impossible, on pourrait pas faire ça aujourd'hui. Mais c'est pas normal qu'on serait pas capable de faire ça aujourd'hui. Et on riait de la religion catholique là-dedans. Il y avait des trucs, c'est complètement le délirant.
Mais c'est ça, mais parce que au-delà des caricatures de Mahomet, il faut aller au-delà de ça, là, au-delà de la critique de l'islam, c'est de rire de tout, en fait, là, puis de rire des institutions, puis l'Église catholique en est une institution, puis Charles Hebdo se sont pas gênés pour le faire, mais aujourd'hui, t'as raison, écoute, je regarde, moi, des vieux sketchs, puis moi, je suis un fan fini de RBO, et je regarde souvent des vieux sketchs RBO que je trouve aussi drôles aujourd'hui qu'avant, puis je me dis, ce serait impossible si tu faisais ça.
Écoute, il y a un numéro de Cro sur l'immigration, là. Aujourd'hui, je pense qu'il y aurait, en tout cas, on brûlerait les bureaux, je pense qu'on chercherait à brûler les gens qui l'ont fait, là. Je veux dire, je lisais ça, puis je me disais, aïe, aïe! Tu sais, on disait, oui, mais faut aussi l'immigration, parce que le fédéral nous donne l'argent pour chacune des têtes de noirs qu'on fait rentrer. Écoute, je lisais ça, puis je me disais, mais c'est pas possible! C'est sûr que l'époque était différente, mais on riait de tout. On riait des ethnies, on riait des fonctionnaires, on riait de la religion.
Bon, on riait des tricotés serrés, là aussi.
Oui,
là, des blancs et tout ça, mais tu sais.
Il y avait un concours dans le Cro, là, où tu passais, mettons, devant un petit boui-boui, là, une cantine de quelque sorte, puis c'était une façon, par exemple, de rire du plus drôle fondrant du village le plus ridicule et tout ça. On riait de tout.
Mais oui, la ville la plus niaiseuse du Québec, c'était souvent Drummondville, mais Saint-Sauveur avait été nommé à un moment donné la ville la plus débile du Québec. Et c'est drôle, mais tu sais, c'est un retour du balancier. Là, on est dans une période difficile, mais moi, jamais je croirais que, tu sais, on va revenir, là. Les gens, ils accepteront pas d'étouffer comme ça, là.
Ben, écoute, j'ose espérer, mais d'une certaine façon, je remarque aussi qu'il y a des gens au Québec qui sont très, très, très accrochés au fait que maintenant, il y a des limites, ou en tout cas qu'on encadre beaucoup la liberté d'expression. Et malheureusement, ces gens-là, ceux qui, par exemple, croient vraiment qu'il faut canceller parfois certaines prises de parole, ben ils ont des relais aussi dans certains médias. Puis, tant que ce sera comme ça, tu sais, toi et moi, on est ici, puis on va parler de notre opinion, on le fait librement, puis c'est bien correct comme ça. Puis il y a d'autres gens aussi sur d'autres tribunes qui, eux, continuent à défendre le fait que, par exemple, publier les caricatures de Mahomet, ben ça avait aucun sens, ou même qui vont dire c'est plus le temps d'appuyer Charlie Hebdo parce que c'est de la provocation. Mais, puis on devrait respecter le droit de gens qui pratiquent des religions de ne pas se sentir brimés et attaqués.
Non, puis tu sais, on s'entend, là, je pense que les gens nous comprennent, Steve, qu'on veut pas revenir au bon vieux temps des jokes niaiseuses de fif pis de nègre, là. Je m'excuse de dire ça, mais tu sais, c'est pas ça. Je me souviens, moi, à C'est quoi FM, il y a quelques années, il y avait un quiz à C'est quoi FM qui était mort ou fif. OK, écoute bien, Steve, là, puis on nommait des noms de comédiens, puis il fallait que tu... Là, les gens appelaient, puis il fallait que tu dises, y es-tu mort ou y est fif? Écoute, on veut pas revenir à cette époque-là non plus, là.
Non, c'est pas une question de ça, mais ce qui est en jeu en ce moment, c'est que en fonction de prédicats idéologiques et d'une certaine morale, d'une certaine conception de ce qui est moral ou amoral, on permet ou on ne permet pas. C'est pas normal que dans une université, par exemple, on décide telle personne va venir. Bon ben non, on ne veut pas que M. Bock-Côté mette les pieds à l'UQAM, puis on va sacrer des tracts partout, puis même on va faire dérailler le tout, puis on va dire on veut pas de ces gens-là à l'UQAM, on veut pas d'une telle personne à l'UQAM puis on en veut une autre. Ça pour moi c'est il y a une dérive là, puis le milieu universitaire ça a été documenté, il y a plusieurs personnes qui se sont prononcées là-dessus. C'est pas normal parce que s'il y a un sanctuaire où on veut qu'on puisse débattre de d'à peu près toutes les idées, ben c'est bien celui-là. Puis ça se perd, ça. C'est pas une lubie, ça. Ça se perd pour vrai. Puis si on laisse cours à ça, ben on va perdre plus que ça. On va comme imposer des œillères à une institution qui devrait jamais en avoir. Puis ça, ben il faut pas que ça arrive.
Tout à fait. Puis Steve, écoute, dès que l'émission est terminée, je vais aller sur Google, Crow fonctionnaire juin 82. Je veux lire ça. Merci beaucoup. Bonne journée, Steve Fortin.
Salut bien.